Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Fanny Cohen-Moreau et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Benjamin Vignal. La gourmandise de ce matin a été trouvée dans le dernier ouvrage de notre invité intitulé « Le théorème du parapluie ». Au XVIIIe siècle, l'écrivain et voyageur Jonas Hanway fut le premier londonien à utiliser un parapluie, pratique qu'il fit sienne au retour d'un voyage en France où l'objet était déjà diffusé. Cela lui valut de nombreuses railleries ainsi que la colère des conducteurs de fiacres, jusqu'alors les seuls garantissant d'effectuer des trajets au sec en cas d'intempéries. Hanway ne se laissa pas démonter et continua de se balader sous son parapluie pendant plus de 30 ans. Je cite la chute triomphale. Oxymore de cette anecdote. Quelques mois après sa mort, les premiers parapluies commercialisés firent leur apparition dans le pays avec le succès qu'on leur connaît. Et l'auteur de conclure, il ne faut pas craindre les ruptures. Voilà la sagesse des parapluies. Soyons sans peur, ni honte, ni préjugés. Notre apothicaire de l'âme grandit dans le petit village des Deux-Sèvres où il passe ses soirées à observer les étoiles. Il rêve de devenir astrophysicien, mais c'est dans une autre galaxie qu'il fera carrière. Au lycée, il rejoint le club de jeux mathématiques où un professeur spécialiste de magie mathématique stimule son imagination. Il devient un pilier des colonies de la Fédération française des jeux mathématiques, intègre l'ENS, puis se consacre à la vulgarisation, toujours mathématique, à partir de 2007 via son site internet Micmath. Je me suis autorisé quelques ellipses en hommage à la géométrie, bien entendu. Et après une thèse sur les probabilités, il hésite à devenir chercheur, mais choisit de transmettre sa passion à plein temps en créant une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos aussi ludiques qu'enthousiasmantes. Le succès ne se fait pas attendre. Les vidéos sont visionnées des millions de fois et sont parfois utilisées en classe par certains professeurs. Parallèlement à cela, cet enchanteur anime de nombreux ateliers et publie des ouvrages passionnants comme le grand roman des maths ou encore le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, tous deux parus chez Flammarion. Bonjour Michael Lowe.
Bonjour.
Michael Launay, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Ah, c'est assez étrange parce que ça vient par moments. On se demande toujours quand est-ce que ça va arriver. Et d'une certaine manière, je la crains pas trop parce que voilà, que j'aime bien par moments quand la mélancolie arrive. Mais le tout, c'est que il faut que ce soit le bon moment parce que il faut que l'ambiance autour le permette. C'est-à-dire que ce qui est le plus gênant dans la mélancolie, c'est quand on est dans une période de sa vie où on peut pas se le permettre, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à faire, où on peut pas vraiment attendre, où on peut pas vraiment juste se poser et regarder le ciel, regarder les étoiles, où on peut pas simplement se donner complètement à cette forme de tristesse. Et alors là, dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir besoin de remèdes, on peut avoir besoin de trouver des choses pour se changer les idées, pour réussir à aller contre la mélancolie. Mais sinon, quand c'est le bon moment, quand justement il y a des moments où on n'a pas forcément la tête à faire quoi que ce soit, simplement laisser les idées, voilà, juste marcher, juste tourner en rond, juste divaguer. Eh bien, dans ce cas-là, ça me gêne pas forcément, et c'est des moments que j'aime bien et qui sont aussi propices à voir surgir des idées un peu spontanément, des choses auxquelles on s'attendait pas. Et d'un seul coup, notre cerveau nous propose quelque chose. On savait pas que c'était là, que c'était en attente, que c'était en germe.
Mais Michael Launay, là, vous décrivez une mélancolie idéale. La mélancolie, elle ne prévient pas quand elle arrive. C'est justement son fort. Elle vient souvent au mauvais moment.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand elle arrive au mauvais moment, là, ça peut être dur parce que il y a une sorte de lutte qui est un peu nécessaire parce qu'effectivement des fois on a des choses à faire, le monde extérieur n'est pas d'accord, ou alors notre humeur n'est pas d'accord, on a besoin de voilà, et donc dans ce cas-là, bah c'est vrai que c'est un peu il faut faire avec, et puis dans ce cas-là, oui, il y a des petites choses, il y a des activités, des pour moi c'est pas mal les mathématiques, la science ça m'aide beaucoup justement à me détacher, parce que c'est quelque chose qui permet de prendre du recul, qui permet de regarder d'un peu plus loin, d'une certaine manière de s'oublier un peu pour s'émerveiller du monde qui nous entoure. Et ça aide pas mal en ce qui me concerne.
Michael Launay, mais ça tombe bien, c'est vous l'invité, donc c'est vous qu'on veut entendre, donc c'est ce qui vous concerne. Vous transmettez votre émerveillement justement des mathématiques à travers vos vidéos, à travers vos ouvrages, à travers votre site internet. Et dans votre dernier ouvrage qui est passionnant, Le théorème du parapluie, vous faites allusion à Newton qui reprend les réflexions de Kepler. Et il y a cette phrase qui m'a vraiment frappée. C'est un résumé, en gros, de la situation par Newton. Tout tombe sur tout, tout le temps. Et alors, cette idée de gravité et de chute physique, quand on les prend sur un aspect métaphysique, dans ce cas-là, on voit que le négatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les mathématiques, justement, est-ce que la science, vous avez voir des choses qu'on trouve tragiques, métaphysiquement, plus belles? Transcendées, en quelque sorte.
Alors, je suis pas sûr de voir ce que ça veut dire de voir les choses de façon tragique dans ce cas de figure. Bah,
tout tombe sur tout le temps. Là, il y a l'idée de chute. La chute dans une vie humaine, c'est peu réjouissant en temps normal.
Alors oui, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est vrai que la chute est peu réjouissante, mais ce qui est bien, alors par exemple, si on prend le cas de la gravitation universelle, c'est que justement la chute ne veut pas forcément dire qu'à la fin on va heurter quelque chose. C'est-à-dire ça peut être une chute sans sol.
Une chute douce, une chute sans heurte.
Et c'est précisément ce qu'on prend Newton avec la Lune, c'est-à-dire que la Lune tombe sur la Terre, mais comme elle va très vite, elle tombe à côté. Et donc, elle se retrouve dessous et elle retombe dans l'autre sens, puisque une fois qu'elle est sous la Terre, le bas pour elle est vers le haut pour nous.
La Lune ne fait que chuter.
Elle tombe en permanence, mais elle tombe à côté en permanence, ce qui fait qu'elle ne heurte jamais la Terre et c'est pour ça qu'elle tourne. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable à comprendre. C'est d'un seul coup, on se dit, mais ça remet en cause notre définition des mots. Et c'est aussi ça que fait beaucoup alors, les mathématiques et la science. C'est que des fois, on a l'impression qu'on comprend, qu'on utilise un mot dans un certain sens, et puis on se rend compte que ce mot va pouvoir avoir un sens beaucoup plus large et que c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus satisfaisant de formuler les choses en lui donnant un autre sens que celui qu'on lui donnait jusque-là, dans le sens... Par exemple, le mot « diviser » aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai compris quand je vais avoir une dizaine d'années. Et alors, diviser, normalement, on divise, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire, si on divise quelque chose, il y en a moins après qu'au début. Pourtant, en maths, si on divise par 0,5, eh bien, ça multiplie par 2. Et donc, ça, c'est le genre de chose qui est assez troublant. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi c'était vrai. Et donc, effectivement, d'un seul coup, qu'est-ce que c'est qu'une division dans ce cas-là? On élargit le sens du mot parce que c'est plus joli comme ça.
En fait, l'idée de relativité va nous accompagner pendant toute l'émission, comme on va le voir. Alors, chers auditeurs, vous êtes là, je vous annonce le sommaire des réjouissances. Dans quelques instants, Michael Launay va convoquer pour vous Saint-Exupéry, Des âmes qui doutent, Carl Sagan, le mathématicien Paul Lévy, l'artiste néerlandais Escher, la chanteuse Juliette Barbara et de la marche juste après la chambre de Rodolphe Burger et Christophe.
Une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat. Vous diriez, ça a été.
Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée, pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Thank you.
croqueriez une pomme petite. Vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez:
c'est bizarre.
À la mélancolie sur France Inter en compagnie du mathématicien Michael Launay.
I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish, that's what you're in right now. This, says the young fish, this is water. What I want is the ocean.
Le long métrage d'animation Soul de Pete Docter et Kem Powers, produit par Pixar et sorti en 2020 sur la plateforme Disney+. Michael Launay, je fais exprès de ne pas traduire la scène qu'on vient d'entendre parce que j'aimerais que vous nous décriviez ce qui se passe dedans. C'est vous qui l'avez choisi.
C'est je l'ai vu récemment et c'est vrai que quand vous m'avez demandé un extrait, ça m'a inspiré et c'est cette fable du petit poisson qui cherche quelque chose et qui demande je cherche l'océan, où est l'océan? Et on lui dit mais tu es dans l'océan. Il dit mais non, mais c'est pas de l'océan, ça c'est juste de l'eau autour de moi, ce que je vois. Et j'ai l'impression que effectivement c'est assez général. On cherche souvent quelque chose dans lequel on est déjà parce que on se fait une mauvaise idée de ce qu'on cherche d'une certaine manière. Et ça c'est assez courant dans la vie de tous les jours, quand on a une situation quotidienne. Et puis c'est aussi courant dans les choses beaucoup plus profondes de la vie et dans la recherche scientifique, où des fois on cherche absolument une réponse et puis finalement parfois c'est pas la réponse qu'il faut chercher, c'est une autre question. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, parce que souvent on nous pose des questions et puis on sait qu'il y a une réponse parce que on nous a déjà le cours a déjà été préparé, il y a un programme, il y a des choses qui vont comme ça. Et en fait, ça, dans toute démarche pour essayer de comprendre des choses, pour essayer de comprendre le monde, eh bien, savoir se poser les bonnes questions et savoir reconnaître une bonne question, eh bien, c'est autant essentiel que d'ensuite trouver une réponse, peut-être même plus. C'est-à-dire, des fois, il y a des bonnes questions qui nous réconfortent sans même forcément avoir la réponse.
Par exemple.
Ah, je ne sais pas s'il y a un exemple particulier, mais par exemple, si on observe l'univers qui est autour de nous, eh bien finalement, on comprend pas. Il y a plein de choses qu'on comprend pas. On se pose plein de questions. On se sent tout petit vis-à-vis de ça. Et d'une certaine manière, comprendre qu'on est tout petit, comprendre qu'on n'est pas grand-chose, ça nous libère d'un poids.
On va y revenir, Michael Launay, parce que je trouve ça assez surprenant, finalement. Je peux l'entendre et je peux aussi entendre le contraire absolu. Et justement, le sous-titre de votre dernier livre, c'est « L'art d'observer le monde dans le bon sens ». Tout est une question de point de vue, finalement.
Oui,
c'est même ça. Même là, la scène dans Soul de Pixar, c'est ça, à nouveau.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose, on a envie d'y comprendre une chose, peut-être un préjugé ou quelque chose qu'on a entendu avant et qu'on a envie de revoir. Et puis en fait, des fois, il suffit de faire un pas de côté, de décaler, de se dire on va regarder les choses un peu différemment. Et puis d'un seul coup, on peut avoir un déclic. C'est-à-dire c'est là qu'on va comprendre quelque chose et qu'on va se dire ah mais voilà, si on ne comprenait pas, c'est pas forcément parce que c'était compliqué, mais c'est parce que justement on n'avait pas trouvé le bon angle.
L'angle, c'est ça. Et justement, là, il est encore question d'angle dans votre citation consolatoire, Michael Launay. Elle est attribuée à Saint-Exupéry, qui la formule, selon vous, autrement dans Citadelle, œuvre inachevée, parue 4 ans après sa mort, en 1948. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Est-ce qu'on peut engendrer, créer de zéro la motivation, le désir, selon vous?
Je ne sais pas si on peut créer le désir, mais en tout cas, on peut donner l'exemple. C'est-à-dire que si on aime profondément quelque chose, qu'on a envie de le faire, eh bien, plutôt qu'effectivement d'aller voir les gens et de leur dire « venez avec moi à tout prix », juste commencer, et puis les gens qui passeront autour de vous vont vous regarder, et puis il y en a peut-être qui passeront leur chemin, et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas tous motivés par la même chose, mais au bout d'un moment, il va y en avoir quand même quelques-uns qui vont être curieux, qui vont se demander ce qu'on fait. Et effectivement, je crois beaucoup à l'exemple, et puis au mimétisme, c'est-à-dire c'est comme ça que les enfants apprennent quand ils sont tout petits, ils regardent ce qu'il y a autour d'eux, ils essayent de reproduire, et finalement c'est la période de la vie où on apprend très vite et où on apprend beaucoup de choses.
Comme le premier londonien qui a utilisé un parapluie et qui a subi d'abord les railleries et ensuite les gens l'ont imité.
C'est ça, voilà, il s'en moquait, il était bien sous son parapluie, et puis peu à peu, eh bien, les gens s'y sont habitués, et maintenant on a tous un parapluie.
Mais c'est une leçon là que vous donnez, Michael Launay, qui est très utile, puisque finalement, il arrive souvent qu'on veuille absolument l'approbation des autres, ou l'aide, le soutien des autres pour faire quelque chose, alors qu'en fait, si quelque chose compte vraiment, il faut le faire tout seul d'abord, sans personne. Et puis finalement, si les gens s'y intéressent, ils viendront d'eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Il faut d'abord être satisfait de ce que nous, on fait. Alors, évidemment, il ne s'agit pas non plus de pas du tout tenir compte du regard des autres, parce que ça peut aussi nous apprendre des choses. Et de la même manière que quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut inspirer des gens, et bien on peut s'inspirer des gens qu'on regarde autour de nous. Et des fois, on part dans une direction, on regarde quelqu'un à côté, on se dit « mais non, en fait ». Et c'est bien de s'inspirer les uns des autres et de copier. C'est pareil, ça. Des fois, je vais dans des classes pour travailler des mathématiques avec les enfants. Et très tôt, on voit un réflexe de quand ils regardent les uns les autres, ils disent « mais il m'a copié ». Et il y a une sorte de honte d'avoir copié et d'avoir regardé ce que faisait l'autre et d'avoir repris, qui, à mon avis, a pas forcément lieu d'être, parce que justement, si
c'est enrichissant.
Si, voilà, c'est enrichissant. S'il a copié, c'est que tu as une bonne idée, et donc partageons-la et on ira plus loin ensemble.
Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.
On entend l'astronome et écrivain Carl Sagan raconter l'univers dans le documentaire Pale Blue Dot, du nom de son livre paru en 1994. Michael Launay, Pale Blue Dots, un point bleu pâle, c'est plusieurs choses. C'est une photographie, c'est un livre et c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
Eh bien, c'est une photographie qui a été prise de la Terre, mais depuis les extrémités du système solaire. Et effectivement, quand on regarde de loin, eh bien, on a une photo avec des étoiles, avec des planètes, des choses comme ça. Et puis, quelque part, là, dans l'obscurité, tout au fond, il y a un petit point bleu qui apparaît, qu'on plisse un peu des yeux pour le voir apparaître. C'est pas évident de le repérer. Et puis, on nous dit, voilà, ça, c'est la Terre. Et en fait, on est tous là. Et tout ce qui, toute l'histoire des hommes, c'est ce que dit Carl Sagan dans cette histoire, c'est toute l'histoire des hommes, toutes nos ambitions, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qui compte pour nous, ou tout ce qui nous paraît absolument essentiel, et bien c'est juste dans ce tout petit point, la minuscule. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve formidable et qui permet de se libérer d'un poids. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut être pris d'un vertige au premier abord, et c'est vrai qu'au début, on se dit, mais d'un seul coup, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça, et on ne va jamais s'en sortir, quoi. On est perdu et on peut rien faire d'important. Et finalement, une fois qu'on s'est dit ça, bah oui, après tout, on ne peut rien faire d'important, et ben, c'est pas grave, faisons ce qu'on veut, du coup. Et puis, ça donne une motivation, parce que parce que justement, on peut se recentrer un peu sur soi-même et se dire, bah, je veux faire des choses pour moi, et c'est pas grave si c'est pas important. On n'est pas grand-chose.
Mais tout à l'heure, Michael Lenay, je vous ai dit qu'il y avait que justement cette idée pouvait être vue de deux angles différents, puisqu'en fait, on parle que d'angle et de point de vue. Notre insignifiance est aussi une donnée quelque peu vexante. Enfin, nous ne sommes rien, nous ne comptons pas, mais cette condition ne nous empêche pour autant pas de souffrir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut à la fois accepter que objectivement on n'est rien,
ouais.
Mais enfin, on n'est pas obligé d'être objectif tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut aussi accepter d'être subjectif et de se dire qu'on compte pour soi-même.
Je veux dire, je pense par exemple aux artistes, dans toute l'histoire de la littérature, ils ont dû se prendre au sérieux à un moment quand même, oui, pour faire des grands monuments de littéraires et avoir du lyrisme. Parce que finalement, on est grotesque.
Oui, c'est drôle. En fait, quand j'étais au lycée, de façon un peu imbue de moi-même, je pensais ça, je me disais, mais en fait, les scientifiques qui s'intéressent au monde autour d'eux, c'est une démarche qui finalement est assez humble parce qu'on n'est pas centré sur soi, on regarde le monde qui nous entoure et on s'intéresse à ce qu'il y a autour, alors que tout ce qui est un peu littérature, art et tout ça, c'est les hommes qui s'intéressent à ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc on se regarde un peu le nombril.
Ou ce qu'ont fait les autres.
Mais quand on voilà, c'est l'humanité, ça reste l'humanité, ça reste nous. Et puis un peu plus tard, je me suis dit, mais finalement, est-ce que la position la plus prétentieuse, c'est pas de prétendre qu'on peut comprendre le monde et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a à essayer de comprendre des choses qui nous dépassent complètement? Est-ce que finalement, eh bien, l'attitude la plus modeste, c'est pas de dire nous ne sommes que nous-mêmes et alors, eh bien, on va faire avec et on peut faire des choses intéressantes pour nous-mêmes.
Et pour les autres aussi, quand même.
Et pour les autres, oui, oui. Quand je disais nous-mêmes, j'englobais l'humanité, oui, d'une certaine manière en une seule voix, mais c'est un peu...
Et alors, Michael Lenay, pensez-vous qu'il y ait un cosmos, un ordre ?
Alors ça, je ne sais pas, ça dépend ce qu'on appelle un ordre. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des probabilités.
Et oui, justement, il y a la théorie du chaos dedans.
C'est ça. Alors, la théorie du chaos, c'est quelque chose qui est un peu à la limite entre le déterminisme et les probabilités. Mais ce qui est épatant quand on fait des probabilités, c'est de voir que du hasard pur et simple peuvent apparaître des structures, peuvent apparaître des choses comme ça auxquelles on ne s'attend pas. On pose juste quelques règles un peu élémentaires. Et puis, d'un seul coup, eh bien, on regarde à grande échelle et on se rend compte qu'il y a des choses qui apparaissent. On peut, même si, à petite échelle, si on lance un dé, on ne peut pas savoir à petite échelle ce qui se passe. Mais si je lance 600 fois un dé ou 1000 fois un dé, je vais pouvoir prédire une moyenne, je vais pouvoir commencer à dire des choses. Et plus les mécanismes de probabilité sont complexes, plus effectivement on peut réfléchir aux structures et se dire qu'on voit apparaître des choses qui sont totalement prévisibles au milieu, disons, construites de pierres imprévisibles.
C'est un peu rassurant, Michael Lenay.
Oui, c'est assez rassurant. C'est-à-dire qu'on se dit finalement que.
Il y a peut-être un sens quelque part.
Une forme de stabilité.
Ou d'ordre, pas de sens spécialement, mais d'ordre.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sens élémentaire à la base des choses pour qu'un ordre s'en dégage, en tout cas.
Dans un instant, nous parlerons d'escalier fou et de procrastination, le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter de Strokes, The Adults Are Talking.
Thank you.
Mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie du mathématicien Michael Launay.
Je voudrais dire que ce qu'a été pour moi Paul Lévy, un découvreur de première grandeur du calcul des probabilités. Alors je lui soumets un brouillon, on peut dire, enfin des calculs, avec un raisonnement bien sûr, et Paul Lévy me dit « Oui, intéressant, mais il faut prendre ça tout autrement, et je vous écrirai. » Et effectivement, j'ai reçu 3 pages fort bien écrites. C'était textuellement ma première communication à l'Académie des sciences. Voilà. J'ai été très reconnaissant, j'ai toujours reconnaissant pour ce maître généreux qui m'avait fait confiance sur bien peu de choses et qui, d'une certaine manière, m'a mis en selle.
Le mathématicien et oulipien Pierre Rosenstiel, disparu en octobre dernier dans le documentaire réalisé en 2006 par Marin Rosenstiel, Les belles mathématiques. Pierre Rosenstiel a eu le mathématicien Paul Lévy comme professeur et directeur de thèse, et c'est ce dernier qui est l'auteur de votre sérum littéraire, Michael Launay, que je n'ai pu me procurer d'aucune façon. Quelques aspects de la pensée d'un mathématicien, paru en 1970. Parlez-nous de ce livre. Comment l'avez-vous découvert?
Alors, c'est un livre qui, dans lequel il raconte, donc il l'écrit quand il a plus de 80 ans, je crois. Il dit au début, il dit j'ai plus de 80 ans, et il commence à raconter un petit peu sa vie. Il essaye de détailler ce qui se passe dans sa tête quand il fait des mathématiques. Alors effectivement, je pense qu'il a été imprimé à peu d'exemplaires. Et à vrai dire, je le recommande pas vraiment parce que rapidement, dès la page 6, 7,
oui.
8, 9, 10,
il rentre dans les détails. Il y a le mouvement brownien, plein de choses auxquelles on ne comprend absolument rien si on n'est pas mathématicien.
Il faut connaître un peu, voilà, son travail déjà avant pour pouvoir le lire. Mais ce qui m'intéressait, c'est de donner une anecdote. Parce que quand on fait des mathématiques, ce qu'on aime, c'est les moments où on comprend. C'est le moment où on a un déclic, où on est dans l'obscurité juste quelques instants avant. Et puis il y a un problème, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on saisit quelque chose. Alors il y en a beaucoup des mathématiciens, des mathématiciennes qui ont raconté ce genre d'anecdote, mais là, au tout début, donc dans la toute première page, il en raconte un où il parle d'un souvenir quand il était tout jeune, et donc il est assez simple à comprendre puisqu'il était enfant. Donc je vous le lis, il dit « Voici le premier souvenir que j'ai d'une idée mathématique nouvelle apparaissant brusquement et spontanément dans mon cerveau. » J'avais, je pense, 7 ans. Je marchais dans une allée du Luxembourg, devant la statue de la Croix, donnant la main à une grande fille qui devait avoir 12 ou 13 ans. Naturellement, je devais lever la main et m'en étonnais. Elle est plus grande que moi, mais son bras est plus long que le mien et ceci devrait compenser cela. Tout d'un coup, je compris, tout est agrandi dans les mêmes proportions. Je crois pouvoir dire que je n'ai rien appris depuis sur les figures semblables.
Waouh.
Donc voilà, c'est assez émouvant parce que c'est vraiment, il raconte, il dit, c'est son tout premier souvenir où d'un seul coup, il comprend pas, il se passe quelque chose et il a compris. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'aller dans des mathématiques très avancées pour avoir ce genre de déclic parce que c'est vraiment tout simple, c'est une situation très concrète, quoi. Il tenait la main à cette grande fille et il se demande pourquoi il doit lever la main. Et d'un seul coup, il a cette image, cette figure, cette idée géométrique finalement qui lui apparaît dans l'esprit et il comprend pourquoi.
Michael Launay, les mathématiques, vous en tirez un émerveillement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a une sorte de magie dedans, de perfection formelle. Et justement, il y a aussi les mathématiques s'opposent à la mélancolie en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez en tête la gravure de Dürer, Mélancolia 1, qui est très connue, oui. Et il y a plusieurs instruments de mesure mathématiques dessus. Et en fait, c'est parce que les humains de tout temps ont eu la tentation de maîtriser le monde, puisqu'on est tout le temps dans l'incertitude et que c'est terrifiant. Justement, les mathématiques, c'est rassurant, parce qu'on a l'illusion de pouvoir contrôler ou de maîtriser un tout petit peu les données de cet univers chaotique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que les mathématiques vous rassurent? Est-ce que la perfection, est-ce que le fait qu'il y ait un résultat pour certaines choses, pas pour tout d'ailleurs, mais la plupart du temps, une équation, il y a un résultat, c'est très rassurant et gratifiant.
Oui, d'autant plus que c'est aussi d'une certaine façon une fuite, parce que les mathématiques, c'est pas les sciences physiques, c'est abstrait. C'est-à-dire que quand on parle de nombres, quand on parle 2, 3, 4, on parle pas de choses réelles. C'est-à-dire que d'un seul coup, on prend le monde, on s'en inspire, et on crée un autre monde un peu idéalisé dans notre esprit.
C'est l'imaginaire absolu.
C'est de l'imaginaire. Et ça, c'est fabuleux de s'en émerveiller. Et encore une fois, Paul Lévy parlait de 7 ans, mais dès très jeune, quand on dit une droite, c'est quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'on trace, on peut tracer à la règle sur notre papier, on peut tracer une ligne. Et on dit, alors ça, ce que tu as sur ton papier, en fait, c'est une représentation, mais maintenant, il faut que tu imagines dans ton esprit quelque chose qui se prolonge au-delà de la feuille, qui est absolument infini, et alors qui est infini dans un sens, mais qui est infiniment fin aussi. C'est-à-dire que là, le coup de crayon, on le voit sur la feuille parce qu'il a une petite épaisseur. En vrai, une vraie droite, on ne peut pas la voir parce qu'elle est infiniment fine, donc il faut vraiment se l'approprier, la poser dans notre esprit. Et avec ça, on va pouvoir commencer à raconter des histoires. On va pouvoir en imaginer plusieurs, elles peuvent se croiser ou pas, on peut rajouter des cercles, des choses comme ça. Et puis, en raisonnant sur ces créatures qui sont dans notre esprit, eh bien, on va découvrir des choses, on va se rendre compte que certaines peuvent avoir certaines propriétés que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est une façon de... On peut s'en émerveiller. Et effectivement, c'est très rassurant parce que c'est à nous, c'est intime. C'est-à-dire qu'on l'a dans l'esprit et dans le cerveau. Et on peut en faire... C'est un peu comme des jouets dont on peut faire ce qu'on veut. Et puis après, une fois qu'on est là-dedans, on peut l'appliquer au monde. Et on peut se dire, voyons, ce que j'ai compris dans ma tête, qu'est-ce que je peux en faire maintenant et est-ce que je peux mieux comprendre ce monde effrayant qui est autour de moi.
Et considérer les gens comme des droites, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Un kubus is op zichzelf een wonderlijk fraai ding. En je kunt hem een beetje ingewikkelder maken. Je kunt ingewikkelder figuren maken, octaeders en tetraeders en zo. Die zijn allemaal boeiend op zichzelf. Maar als je nou eenmaal graficus bent en je wil er een print van maken, dan denk je bijvoorbeeld, aangezien deze regelmaat zo groot is, laten we daar als contrast omheen zetten een soort van chaos. Laten we er een print van maken die de tegenstelling illustreert van orde en chaos.
Un cube est d'une merveilleuse beauté et vous pouvez la rendre beaucoup plus complexe en composant des figures comme les octaèdres ou les tétraèdres qui sont fascinants par eux-mêmes. Mais l'artiste se dit, laissez-moi mettre en balance cette extrême régularité en la mettant au centre d'une sorte de chaos, c'est ce que j'ai fait. L'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher en 1968, artiste dont vous affectionnez, Michael Launay, les œuvres géométriques et paradoxales. Bon là je pense évidemment tout de suite, parce que vous y faites référence sans le citer directement, mais à la maison aux escaliers où on dirait un Tex Avery, c'est-à-dire qu'il y a des escaliers partout, en haut, à droite, en bas, à gauche, et puis on part d'un point, on pense monter, puis finalement on arrive en bas.
C'est ça, on a l'impression qu'il n'y a aucune cohérence, mais en même temps il y a des morceaux qui sont cohérents. Et oui, c'est assez fabuleux parce que On a une sorte de mélange entre quelque chose de très précis, de très rigoureux. Ces traits sont très précis et à chaque fois quand on regarde chaque détail, il y a quelque chose de très satisfaisant. Et puis quand on regarde l'ensemble, on a quelque chose de différent et on peut avoir des figures géométriques qui vont se transformer. On a des pavages avec des carrés, des losanges qui d'un seul coup deviennent des oiseaux
ou des poissons.
Avec cette main qui se dessine elle-même, ces transformations géométriques. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les mathématiques, c'est un monde imaginaire. On est dans notre esprit. Donc, d'une certaine manière, on a une liberté qu'on ne peut pas se permettre dès qu'on regarde le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens, mathématiciennes qui finalement aiment leur discipline parce qu'ils n'ont pas de contraintes. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas obligé de faire des maths pour que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire, d'une certaine manière, une fois qu'on est rentré dans l'abstraction, eh bien, on peut se poser des questions qui ne servent à rien, qui peut-être serviront un jour à quelque chose, mais c'est pas ça qui nous intéresse, mais qui n'en demeure pas moins fascinante. Et effectivement, quand on regarde ces œuvres d'Escher, bien on se dit finalement ça retranscrit rien de vraiment réel. C'est pas le monde réel qu'il a dessiné, mais c'est quand même très agréable, très satisfaisant à regarder.
Escher, qui se défendait d'être mathématicien, mais qui s'est inspiré de figures connues comme le ruban de Moebius ou le cube de Necker, il paraît qu'il y a un de ses tableaux qui a été inachevé, exposition d'estampes, et qui a récemment été résolu, entre guillemets, par une équipe de mathématiciens de l'Université de Leyde. Vous avez entendu parler de ça, Michael Lemay?
Ah non, je n'ai pas entendu parler de ça, j'ai envie d'aller regarder maintenant.
Oui, allez voir, les auditeurs aussi, il y avait un vide, un blanc sur le tableau, et les mathématiciens ont réussi à résoudre en utilisant la grille de torsion utilisée par Escher, avec des fonctions de dilatation et tout ça. Je dis les mots pour crâner, hein, j'y comprends absolument rien, mais allez voir. Quelles sont les mélodies et les paroles qui vous réjouissent, Michael Launay? La chanteuse Juliette nous répond tout de suite.
J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Je m'y mets bientôt, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important. C'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop. Car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain, qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. Chanson, je m'y mets demain. De toute façon, le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne, son propos sera de l'histoire ancienne. Parlez aujourd'hui, demande prudence. Faut déprogrammer les obsolescences. Futur antérieur, passé dépassé. J'ai encore le temps de recommencer. En dormant dessus, je vais y songer. J'ai encore le temps pour changer d'idée et que cette chanson prenne sépulture dans le grand néant de mon disque dur. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour mon testament. Je m'y mets bientôt, tôt ou tard sûrement. Comme je suis du genre à faire mes devoirs pour lundi matin dès dimanche soir. J'ai encore le temps pour hasard et le temps qui doute. Demain je ferai les trucs emmerdants. J'ai encore le temps de perdre mon temps. Comment aux enfers serais-je reçu? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de chanter dans le grand néant de l'éternité. J'attendrai dans demain. Aujourd'hui soit hier, c'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination, j'avoue que me rassure. La chanson, j'ai eu une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi.
2018, la procrastination, Juliette sur l'album J'aime pas la chanson. Pourquoi ce choix, Michael Launay?
Déjà parce que j'aime beaucoup cette chanteuse. Et puis parce que la procrastination, ça me parle pas mal. Je pense beaucoup de gens, mais oui, ça me parle
Vous
pas mal.
Vous nous rassurez.
Et puis parce que... Pour pouvoir avoir des idées, parfois, il faut aussi leur laisser l'espace d'arriver. Donc, il faut pas avoir le cerveau tout le temps trop rempli de plein de choses qui se bousculent. Il faut parfois se laisser porter. Et il y a beaucoup aussi de grands scientifiques qui racontent que des fois, ils passent des jours et des jours à réfléchir à un problème. Et puis, ils arrêtent d'y réfléchir. Et puis, d'une semaine, alors qu'ils étaient en vacances ou ailleurs, eh bien, d'un seul coup, une idée surgit. Et donc, ça a son utilité. Et même si c'est pas forcément le but, on peut procrastiner sans chercher d'utilité, mais parfois, eh bien, ça peut avoir des avantages.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unit? S'en fait ce matin-là, est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas.
Michael Launay, vous avez choisi ce morceau de 1964, Chapeau bas, de Barbara, l'une des premières chansons écrites par la Dame en Noir.
Ah oui, celui-ci aussi, il me parle beaucoup et je l'ai beaucoup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais je l'ai beaucoup écouté. Et il y a encore un peu cette idée de l'émerveillement face au monde, c'est-à-dire que ce côté, on a tout à l'heure, je parlais des questions, et finalement les questions sont parfois plus importantes que les réponses, et c'est celles qui nous rassurent et qui nous entraînent. Et voilà, est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable, on ne sait pas, ou autre chose. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses, mais juste de regarder ce monde qui est absolument merveilleux, qui est sous nos yeux. Et puis de se dire, ben laissons-nous porter, essayons de voir ce qui se passe et on est tout petit face à ça. Ça rejoint aussi le Pale Blue Dot de Carl Sagan. C'est que on comprend pas très bien. On est tout petit au milieu de tout ça. Mais finalement, c'est pas grave et c'est assez merveilleux d'être dans ce monde qui nous pose tant de questions.
Michael Launay, on finit sur l'un de vos derniers remèdes. Jean-Jacques Rousseau en parle dans Émile ou de l'éducation en 1762. Voyager à pied, c'est voyager comme Thalès, Platon et Pythagore. Je peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement et s'arracher à l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Je voulais lire cet extrait parce que je trouve que ça va bien avec ce que vous dites. Est-ce que l'engagement du corps stimule votre pensée, Michael Launay?
Oui, ça j'ai beaucoup de mal à penser assis. C'est presque malgré moi. Des fois, quand je me mets à écrire quelque chose ou que je me mets à mon ordinateur et que j'essaye de travailler, il y a un moment donné où je me réveille et d'un seul coup, je me dis « Ah, mais je me suis mis debout, je me suis mis à marcher sans même m'en rendre compte ». Alors, ça peut être marcher dehors, mais des fois, simplement marcher dans mon salon autour de la table, presque malgré moi. Et c'est le fait d'être en mouvement, d'avoir le corps en mouvement, met mon esprit en mouvement. Et effectivement, c'est presque voilà, automatique, sans que je cherche à le faire. Effectivement, la marche aide beaucoup à réfléchir.
J'ai une dernière question, Michael Launay. Vous parlez de la beauté du monde. Est-ce que vous avez toujours eu cette propension à voir aisément la beauté du monde ou est-ce que vous vous y êtes exercé?
Ah, je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que je la vois pas de la même manière que quand j'étais petit. Parce que déjà, quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qu'on découvre pour la première fois. Alors, j'ai eu de la chance de grandir à la campagne où on voyait les étoiles, donc j'étais passionné d'astronomie. Effectivement, quand on découvre ça, c'est assez fabuleux. Et je pense que à la fois, j'aime bien essayer de garder mes premiers émerveillements. C'est-à-dire que à chaque fois que je vois la Lune, je suis toujours aussi ébloui par ça et je crois que je m'en lasserai jamais, même si c'est je ne sais pas combien de milliers de fois. Et puis en même temps, avec tous ces premiers émerveillements, ces émerveillements d'enfant, se poser des questions et creuser un peu plus loin, ça permet aussi de relier les éléments. C'est-à-dire qu'il y a les éléments entre eux, les choses qui nous émerveillent dans le monde, et puis après, il y a les liens qu'on va créer entre eux et qui sont à nouveau une source de jubilation assez incroyable et qui procure un sentiment différent, un sentiment un peu plus profond, je trouve.
Eh bien, on va terminer sur cette idée d'émerveillement. Merci beaucoup, Michael Launay, d'être venu dans cette émission.
Ben, merci.
Votre dernier ouvrage, Le théorème du parapluie, illustré par Chloé Bouchaour, est paru aux éditions Flammarion. On peut également consulter votre bric-à-brac mathématique et ludique sur le site micmat.com et consulter vos vidéos sur votre chaîne YouTube, apparaître aussi en avril aux éditions Plomb avec André Délédic, le dictionnaire amoureux des mathématiques. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes, tout ce dont on a parlé est sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que le spleen sera dans votre âme aussi pudique qu'un roquefort introverti. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.